بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، la dernière fois on avait pris le deuxième hadith qui est le hadith de Jibril عليه السلام عليكم السلام qui nous a enseigné les fondements de l'islam de façon générale. C'est quoi la différence entre l'islam et l'iman? Lorsqu'on le cite séparément, c'est quoi la différence? Comme dans la question, il y a Mohammed Arberni an l'islam. Ou Mohammed a fait de l'islam, et après il a dit il y a Mohammed Arberni an l'iman. Les deux ont été séparés. C'est quoi la différence? Quand on emploie le mot islam et quand on emploie le mot iman, est-ce qu'on le sépare? D'accord, tu te rappelles?
C'est le truc que j'ai oublié.
Pourtant, c'est l'un des plus simples.
Ouais,
les deux ensemble, quand on dit islam, ils ont le même sens. Mais quand on les cite, taïeb, ensemble, communément, il y a une différence.
L'iman, lorsqu'il est cité avec l'islam, c'est ce qui est relatif à l'attiquade du cœur, à la croyance du cœur, c'est-à-dire croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et l'islam, c'est un pilier de l'islam connu.
Non. En fait, en résumé.
L'iman que l'islam.
Ah, non, la réponse elle est bonne, mais encore plus résumé, c'est que lorsqu'on cite les deux, l'islam c'est les actes apparents et l'iman c'est les actes intérieurs. Avec tout ce que tu as cité. Entre autres, plus d'autres actes du cœur. Et l'islam, en dehors des cinq piliers, tous les actes apparents que l'on fait. Non. Et le plus haut niveau, c'est quoi? Après l'islam, ouais, l'iman, c'est quoi? L'autre? Si tu l'as en français, c'est pas grave, Macbull. Traduit sur trois choses. Première, c'est l'islam. Deuxième, c'est l'iman. Troisième, c'est quoi?
On avait vu deux choses.
Non. Les questions sont de quatre même. Même cinq. Mais la cinquième, elle rentre dans la quatrième.
Non.
Non, il y a plus haut. Il a dit Arpeni anel Islam, informe-moi de l'islam. Après, il a dit informe-moi de l'iman. À troisième, informe-moi de. Non.
Attends, non, attention.
Le niveau le plus haut, c'est quoi?
Pas sûr, mais c'est pas muslim.
Un muslim, après mu'min, et troisième.
Mouassine.
Donc c'est ça, mursin. Donc c'est quoi le mot?
Le mot de.
Le mot de la question. C'est un mursin, c'est ça, mais il y a le mot particulier. C'est quoi le mot? C'est les mêmes lettres que dans mursin. Juste t'enlèves une et tu changes les harakat. Tu remplaces le mim par un hamza. Et tu rajoutes un alif à la fin, avant le nun.
C'est quoi le poète de Mokmi?
Il a dit Mursin.
Tu remplaces le quoi?
Le mime par un hamza. Et avant le nun, tu mets un alif.
Ah, le A.
C'est quoi le mot? C'est un mot que tu le connais, hein? C'est un mot que tu connais. Vous le connaissez tous, ce mot-là. On le traduit par la bienfaisance. Ihsan. Mursin, c'est celui qui a de l'Ihsan. Pareil. Donc là, on va rentrer dans le hadith al-Thalith. Troisième hadith. Il y a قول عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام ولا خمس شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. يعني متفق عليه. Donc selon Abu Abd al-Rahman, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, il a dit que j'ai entendu le message d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire que l'islam a été bâti sur 5. C'est-à-dire 5 piliers. L'attestation de la ilaha illallah et celle que Mohammed est le message d'Allah, pour l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, le hajj et le jeûne de Ramadan. Donc ce hadith-là, il vient nous indiquer quoi ? Les 5 piliers de l'islam. La différence qu'il y a avec le hadith de Jibril, c'est qu'il ne cite pas en soi pilier. Juste, il a interrogé c'est quoi l'islam. Et là, ce hadith-là, il est plus précis. Il parle bien de 5 piliers. D'accord ? 5 piliers. Il dit, Cheikh Al-Abbad, Hafizallahu Ta'ala, « Bunya l'islam ala khams fihi bayan azam sha'an hadihi ala khams. » وأن الإسلام مبني عليها وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي كما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس والاقتصار على هذه الخمس لكونها الأساس لغيرها وما سواها فإنه يكون تابعا لها. Donc lorsqu'il dit l'islam a été bâti sur 5, c'est pour monter justement la grandeur justement de ces 5, leur importance capitale. Et que l'islam se base dessus, se repose dessus. Et là, il a fait une comparaison de l'islam à une bâtisse, un édifice. Et tout édifice est forcément basé sur des piliers. S'il n'y a pas de piliers, il n'y a pas de bâtisse. D'accord ? Donc là, il dit que, justement, ces piliers de cette bâtisse, qui est l'islam, sont de 5. Sont de 5. Et il s'est limité à ces 5-là, car tous les autres actes qui viendront dans l'islam sont attachés à ces 5-là. Donc sont les plus importants. D'accord ? Sont les plus importants. Ensuite, il dit « هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام أولها أشارتان وهما أس الأسوس » Donc ces 5 piliers, ces deux premiers sont les deux attestations, qui sont eux-mêmes les piliers des piliers. Sur ces deux-là se base tout le reste. C'est-à-dire que sans ces deux attestations, tout le reste c'est invalide. Tu peux faire plein de salawat, plein de hajj, plein de siyam, si jamais tu n'as pas fait les deux shahada, tout le reste, ce n'est pas accepté. D'accord ? Donc ces deux piliers-là sont les plus importants. Et tu ne rentres pas en islam sans les prononcer. Quelqu'un, par exemple, qui veut se convertir à entrer en islam, il est obligé de faire l'attestation. Et celui qui serait né musulman ou quoi, il est déjà à la base né musulman, et même dans la salawat, tu l'es dit, dans le tashahud. Donc tu l'es dit obligatoirement. Mais si tu ne le dis pas là, maintenant, quand tu te convertis devant les gens, un jour tu seras amené à le dire. Si tu fais la salat. Pas mal. Et l'une ne va pas sans l'autre. Dire la ilaha illallah, qui revient à unifier Allah dans l'adoration, et à renier tout ce qu'il y a de grand en dehors de lui, parce que dans la ilaha illallah, kama akhazna, il y a deux piliers également. Il y a nafi ou isbat. Il y a la négation, c'est renier tout ce qu'il y a de grand en dehors d'Allah, et l'affirmation, qui est d'affirmer l'adoration seule pour Allah. C'est comme ça qu'on unifie une chose. Une chose pour l'unifier, tu l'affirmes, et tu renies tout ce qui s'y oppose. Affirmer une chose ne suffit pas à l'unifier. Des exemples, on en donne plein. La Salane, je dis, Elium, un exemple, dit, l'Ounas Moujoud. L'Ounas, il est là. J'ai affirmé que tu es là. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a que toi qui es là ? Il peut y avoir d'autres personnes avec toi. Juste, on sait que tu es là. Et je dis, il n'y a personne à part l'Ounas. Donc là, ça prouve que tu es seul. Et bien c'est pareil pour Allah Azzawajal lorsqu'on l'unifie dans l'adoration. Ce qu'on appelle unifier, c'est que les gens disent « j'adore Allah ». On dit non, tu n'adores que Allah. Comme lorsqu'on dit dans la Fatiha « Iyyaka na'budu وإياك نستعين. On ne dit pas نعبدك ونستعين بك. En arabe, le fait d'avoir devancé إياك devant le verbe, c'est pour restreindre la chose à une seule personne, à la base. Et là, ça reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous dit en arabe, إياك ضربتو, c'est toi que j'ai frappé. C'est-à-dire, je n'ai frappé que toi. Et quand tu dis إياك نعبدو, c'est-à-dire, il n'y a que toi qu'on adore. Donc tu affirmes, et en même temps, tu renies. C'est ça le tawhid. Les deux piliers de la shahada, nafi, négation, et isbet, affirmation. Et كذلك, la ilaha illallah, ça implique de dire Muhammad Rasulullah. On ne peut pas dire la ilallah après dire je suis musulman, ça ne suffira pas. Car cela, ilaha illallah, tu ne pourras pas l'appliquer si ce n'est par le biais du messager sallallahu alayhi wa sallam, cet enseignement. Et de dire Muhammad Rasulullah, ça implique quoi? Ça implique de le croire dans ce qu'il informe et d'obéir à ses ordres. Et qu'on ne peut adorer Allah que parce qu'il a enseigné. Tu peux dire 10 000 fois la ilaha illallah, si tu dis pas Muhammad Rasulullah, c'est pas accepté. Tout comme tu peux dire Muhammad Rasulullah et tu dis pas la ilaha illallah, c'est pas accepté. L'une ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que des fois, tu as des ulama, ils disent deux attestations, et il y en a, ils disent une seule. Parce qu'ils disent les deux, elles vont ensemble, ce n'est qu'une en fait. Quand même. Et ça va venir dans le hadith de Aïcha, Inch'Allah. L'obligation du suivi de la sunnah. Il dit que le hafiz, dans le fath, c'est un charh de Sahih al-Bukhari, c'est le meilleur charh, meilleure explication qui existe. Il est gros, hein, c'est 12 volumes. D'accord ? Mais c'est le meilleur, le plus complet. Les ulama, ils ont dit après celui-là, on ne peut rien faire. Personne ne peut arriver avec meilleur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas cité Al-Iman dans les piliers ? D'accord ? Le fait de croire aux messagers, aux anges et autres, comme on l'a dit dans le hadith de Jibril. Pourquoi ça n'a pas été cité ici? Car le fait de dire Muhammad Rasulullah, cela implique de croire en tout ce qu'il va dire. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les choses dans le hadith de Jibril sont citées. En fait, c'est comme si tu avais, on va dire, un exemple, un gros plan. Par exemple, tu as un gros plan sur un paysage. Tu le vois de loin. Donc, par exemple, ça c'est Paris. En vue satellite. Est-ce que tu vois tout? Tu vois pas tout. Après, tu rapproches. Et de là, ça devient plus clair pour toi. Mais le gros plan de loin, tu dis j'ai vu Paris. Mais est-ce que ça veut dire que t'as vu bah, telle rue, t'as vu les champs, t'as vu Bastille? Non, t'as juste dit j'ai vu Paris, c'est tout. Ensuite, dans Paris, t'as différents quartiers. D'accord? Ça demande quoi? Ce qu'on appelle le détail. Et bien là, cette shahada, c'est le gros plan. D'accord ? Et le reste, dans la sunna, vont te faire un rapprochement. Pour que tu arrives à mieux cerner les détails. Les rues, les ruelles, les avenues, les boulevards, tout ce qui s'ensuit. Donc, croire en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça revient à croire en tout ce qu'il va dire qui a été authentifié. Donc tu vas croire en Allah, dans les noms attributs qui sont cités dans la sunna. Tu vas croire aux messagers, aux anges, dans tout ce qui vient dans la sunna. Tu vas croire aux messagers qui ont été cités, dans tout ce qui vient dans la sunna. Tu vas croire aux kutub, dans tout ce qui vient dans la sunna. Tu vas croire au jour dernier, tout ce qui a été cité dans la sunna. Et au qadar, au destin également. Car dans la sunna, tu trouves tout ça. Ça va ensemble. La sunna, elle est venue pour quoi? Pour fassal, détailler le Coran. Le Coran tout seul, tu ne pourras pas le comprendre. Sans la sunna, tu ne pourras pas. Et ce hadith est à prendre comme un rod, une réfutation à ce qu'ils appellent les Coraniyin, la secte qui s'appelle Coraniste. Ceux qui prétendent ne suivre que le Coran. La sunna, ils ne la reconnaissent pas. Ils disent, on ne sait pas, peut-être qu'elle a été changée, c'était un homme, ainsi de suite. Ils ont un tas de kalem qui est farir, qui est batil. Tu verras que c'est Coraniste. Tu verras que ce n'est pas les Coranistes, parce que celui qui est Coraniste, clairement, c'est un sunnite. Parce que le Coran appelle à suivre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est contradictoire. Bref. Les coranistes, comme ils se nomment eux-mêmes, reconnaissent ces 5 piliers. Dis-lui 12 dans le Coran, c'est écrit 5 piliers. Tu n'as pas trouvé. Il y a plein de choses comme ça, tu pourras les contraindre. 5 salades par jour, ils les font. Comment tu sais qu'il y en a 5 par jour, obligatoire? C'est la sunna. Plein de choses comme ça, tu pourras les contrer. Donc, c'est-à-dire, en fait, au fond de vous, la sunna, vous l'avez reconnue, mais vous ne voulez pas le prononcer, et vous prenez ce que vous voulez, et vous dites ce que vous voulez. Sans quoi, la zakat, comment vous la payez? le hajj comme vous faites les rites. Sans la sunna, vous ne pourrez pas le faire. La salat en elle-même, le tartib, al-fatiha, après le rukou, après tu te lèves, après les soujouls, le nombre de rakat, comment vous allez le savoir? Rien, vous ne pouvez rien savoir sans la sunna. Donc la sunna, elle est indispensable. Et la sunna, bien sûr, qui est authentique. Ensuite, après qu'il ait parlé des deux shahadat, yaqul, le pilier le plus important après les deux shahadat, c'est la salat. La salat. Et il a bien dit, iqamati salat. Ce terme-là, iqam, dans le hadith, il a dit iqami salat, en fait. Il n'a pas dit iqama. Il n'y a pas le thème arbouta. Mais ça revient au mot iqama. Iqamati salat, c'est un terme qui est très important. Car des gens vont dire, je fais salat. On dit, tayyib, tu fais salat. Mais c'est pas faire salat qui t'est demandé. C'est de t'acquitter de la salat, c'est-à-dire tu l'as fait. Plutôt d'accomplir la salat, c'est-à-dire tu l'as fait comme elle doit être faite. C'est-à-dire la faire correctement. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la salat, accomplissez-la comme moi je l'ai faite. Aujourd'hui, tu vas voir les gens dans le mosquée, tu vas voir comment ils font salat, on a plein. La sunna, elle est pas là. Pour la salat, comme on l'a appris depuis petit, les adillah, ils connaissent pas, la sunna, ils connaissent pas, les arkan, ils savent pas. Il dit, moi, je fais la salat. Oui, tu l'as fait, mais tu ne l'accomplis pas. Donc là, il a bien dit, iqam salat. C'est-à-dire, tu l'as fait correctement, selon ses règles. En temps et en heure. Vous voyez? Et c'est cette salat-là qui empêche de faire du mal. Comme quand l'État a là, inna salat tanaha anil fasha wa munkar. Que la salat empêche de faire de turpitude et du mal. Et souvent, les gens, tu les vois faire la salat, ils font du mal. Ils disent, je comprends pas. Parce que la salat, tu l'as fait mal. Quand tu la feras bien, selon la sunna, tu verras que tu feras moins de mal, Inch'Allah. Donc ta salat, en même temps, elle est un indice qui quelqu'un qui va au mosquée, qui fait le salawat, et tu vois comment elle est dans tous les jours, tu sais que la salat, il a fait mal. Ça se voit à ce mode de vie. D'accord ? Si tu l'accomplissais comme il se doit, il y a plein de choses que tu ne ferais pas. Plein de choses. Et comme vous le savez, après la salat, il y a un khilaf entre les ulama, savoir est-ce que celui qui la délaisse a maigri ou pas. D'accord ? Il y a un khilaf qui existe depuis longtemps. Et le qawl sahih, c'est que celui qui la délaisse, d'accord, il mécroit car les adillah là-dessus sont apparents. Vous voyez ? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit bainana wa bainahum as-salah, wa man tarakaha faqad kafar, fi rawayah faqad ashrak. Il a dit l'engagement qui est entre nous et eux, c'est-à-dire les croyants, c'est la salat. Celui qui la délaisse, il a mécru. Dans une version, il a associé. Et d'autres hadiths qui prouvent que la salat, son délaissement, c'est du kufr et c'est du kufr akbar. Et après, tes deux ulama, ils ont interprété ce kufr comme étant asrar. D'accord ? Mais en réalité, c'est du akbar. C'est pour cela que la salat, elle vient après les deux shahada. C'est le pilier le plus important. Et j'ai oublié de préciser que les ribadat, les adorations, sont les trois formes. T'as ribada, l'ofziya, celle qui est verbale. Qu'on prononce. Comme quoi, les deux shahadat. C'est verbal. On regarde pas ce qu'il y a dans ton cœur, en toi. À partir du moment où quelqu'un y vient, il prononce les deux shahadat, on regarde pas ce qu'il y a dans son cœur. On l'accepte comme musulman. S'il n'est pas sincère, ça apparaîtra plus tard. Mais au moment où il prononce, voilà. Vous voyez, il y avait un sahabi qui a voulu, qui pourchassait des koufars. C'est Zayd ibn Sabit. Zayd. Oussama ibn Zayd, il faut laisser Oussama. Et il poursuivait des mouchilkines. Avec des hommes du Ansar. Quand ils ont attrapé ce mouchrik, il a dit « La ilaha illallah ». Et dans le hadith, il ne dit pas « Mohammed Rasulullah » qui ça allait avec. Les autres Ansar, ils l'ont laissé. Ils l'ont pas touché. Et Oussama, il l'a tué. Malgré tout. Ensuite, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris cela, il s'est mis en colère. Il a dit « Akataltahu badma akalasha la ilaha illallah ». Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit « La ilallah » Oussama, il a dit « Mais il a dit ça pour se protéger de moi. » Quand il a vu que j'allais le tuer, il a dit ça. Il l'a répété trois fois. Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? À tel point que Oussama il a dit j'aurais voulu me convertir ce jour-là seulement tellement je me sentais mal de ce que j'ai fait. Donc quelqu'un qui prononce la shahada, c'est un musulman. C'est notre frère. Ensuite, ça va apparaître s'il est sincère ou pas. Mais sur le moment, khalas. Lahu malana wa lana malahu. Vous voyez, ce qui est pour nous est pour lui, ce qui est pour lui est pour nous. On est frères. Et cette salat, il y a celles qui sont maktoubat, les cinq, et d'autres qui sont mustahabbat, qui sont recommandées. Et certaines sont obligatoires, autres que les maktoubat, comme par exemple, salat du Eid, il y a un khilaf, mais le coup authentique, c'est qu'elle est obligatoire. T'as la salat du kousouf, des éclipses. Et t'as la salat, salat janaza. Bien qu'elle n'est pas comme les autres, il n'y a pas de soujoud, il n'y a pas de recours, mais c'est, on appelle ça là. Et, mais les 5 maktoubat, ceux qui sont le pilier, sont ces 5-là. Le dhor, le asr, maghrib, isha, fajr. Ce sont ceux-là qui sont cités dans le hadith. Et cette salat, c'est une ibada, deuxième catégorie, badaniya, corporelle. La salat, c'est une ibada, corporelle. C'est, tu as des gestuels à faire. T'as pas d'argent à payer, en soi. Elle est aussi l'ordiya, parce que t'as des choses à dire, t'as la fatiha à réciter, t'as des askar à faire. Mais principalement, la salat, elle est corporelle, elle est gestuelle. D'accord ? On a dit que les deux attestations, c'est verbal, et la salat, elle, c'est corporelle. Ibada, badaniya. Et cette salat, elle a commencé à Mecca, et juste avant que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, fasse la hijra, c'est là qu'elle a été mise à 5. Au début, c'était 2. Aux deux extrémités de la journée. Ensuite, Allah Azzawajal a fait monter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aux cieux, et de là, les 5 salawat l'ont été rendus obligatoires. Au début, c'était 50. Après, ça a été allégé, car on n'aurait pas pu supporter, comme l'a dit Moussa, les salam. Et ce qu'il faut, en fait, elles valent chacune 10. En fait, chaque salat, elle en vaut 10. Elle en vaut 10. Mais ça a commencé à Mecca. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وَفِي آيَةٍ أُخْرَى فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَيُخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Il a dit quoi? Que si jamais ils accomplissent sa salat et sa quitte de la zakat, en parlant des mouchriquines, alors laissez-les passer au moment où il y a des guerres. Et dans l'autre verset, c'est ils sont vos frères en religion. Ce qui prouve que la salat rend croyant. Ceux qui la délaissent, ils ne l'est pas. Ça, c'est parmi les versets que les ulama prennent comme preuve pour dire que la salat rend croyant. Taïeb. Az-zaka. Yaqulu wa yaqarina lis-salah fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Donc après, on a la zaka. Et la zaka, elle, c'est la troisième forme de ibada qui est maliya. C'est l'adoration qui est financière. Taïeb. Elle est basée sur les biens que tu vas dépenser. Bon, allez, comme ça. Donc là, ça revient à ce qu'on disait. Trois formes de l'adoration. Verbale, les deux attestations. Corporelle, la salat. Financière, la zakat. Et certaines, on met près de deux ensemble. Donc cette salat, cette zakat, elle est là pour purifier les biens du muslim. Car nous sommes tous régis par les règles de l'islam, même notre argent. L'argent, on ne gagne pas n'importe comment. Et on ne dépense pas dans n'importe quoi. Et cet argent, pour qu'il soit purifié, Allah, dans sa hikmah, il a dit que les gens qui en possèdent une somme particulière, qu'on appelle le nisab, si jamais ce nisab dure un an avec toi, alors tu en sors le quart du dixième. En fait, c'est 2,5%. C'est-à-dire la somme que tu as, c'est là tel nisab, tu calcules la somme qui a fait un an avec toi, tu la divises en 10, et ce dixième, tu le divises en 4, et ce quart, ça que tu donnes. Voilà, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ça veut dire qu'en fait, tu fais un acte qui a beaucoup de valeur, et tu donnes peu. Et le ulama a dit, si jamais les gens, sur terre, avec la charia, et chacun qui est redevable de la zakat l'a donné, il n'y aurait pas de pauvres sur terre. D'ailleurs, l'islam, il est venu pour gérer le monde entier, dans la paix et l'harmonie. Cependant, nous, en n'appliquant pas, sinon on fait le désordre. C'est nous, on cause le désordre, en n'appliquant pas. Cette zakat, elle est venue pour que, justement, les gens disent, ouais, pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres? Il y aura des riches, il y aura des pauvres. C'est une chose qu'Allah a voulu. Mais le riche, dans son argent, il y a un droit pour les pauvres. Pas besoin d'impôts, pas besoin d'allocs, pas besoin de RSA, pas besoin de retraite, tout cela. On a la zakat qui est là, elle comble tous les besoins. Sans compter après les sadakat que les gens font d'eux-mêmes. D'accord? Mais cette zakat en elle-même, si les gens sur terre, là, étaient tous musulmans et la donnaient comme il se doit, il y aurait personne qui serait dans le besoin de tendre la main pour dire j'ai besoin. À part dans les cas, par exemple, à un moment précis, il arrive une galère ou quoi. Même là, le gouverneur, il a ce qu'on appelle bet el mel, c'est de l'argent qui est de côté pour les musulmans, il donne. Et de l'argent qui est de côté pour les besoins des musulmans, tu vois, le gouverneur, il donne. Tu vois. Les gens ne seraient pas comme les gens se plaignent, ou il y en a qui meurent de faim. L'islam est là pour empêcher cela. Mais comme on n'applique pas, et ben voilà ce qui se passe. Le désordre est sur terre, malheureusement. Donc cette zakat, faut la donner obligatoirement. D'accord ? Après, il y a des asnaf particuliers, on ne donne pas n'importe qui, bien sûr. Et cette zakat permet de purifier les biens de la personne. Celui qui ne sort pas la zakat, même s'il est millionnaire, milliardaire, son argent n'a pas de baraka, il aura que des problèmes avec. Et Yom al-Qiyama, il sera châtié. Yom al-Qiyama, il sera châtié pour ça. Dans un hadith, c'est venu que son argent viendra sous la forme d'un grand serpent qui va l'entourer et lui mordre les flancs. Il a dit, il dira Namelo Kanakenzouk, c'est moi, je suis ton argent, je suis ton trésor. Dans le sens, comme toi, tu l'as retenu, et bien aujourd'hui, moi, je te retiens. Et le serpent, on va le mordre de partout jusqu'à ce que vienne le jugement. C'est-à-dire, ça, c'est l'azab après la mort, pour qui n'a pas donné la zakat, et qui était redevable. Summa, Soum Ramadan, le siyam de Ramadan. Siyam de Ramadan, عندك c'est une ibada lafziya, c'est une adoration verbale, maliya financière ou corporelle. Dans lequel des trois ça rentre? On avait dit au début que les l'ibada, ça là ça aksam de trois catégories. T'as l'adoration qui est elle verbale, comme les deux attestations. On a dit il y a l'adoration qui est financière, l'argent que tu sors comme la zakat. Il y a celle qui est corporelle, on l'a dit comme la salat. Le soum, le siyam, il rentre dans quoi? Dans lequel des trois?
Les trois.
Les trois? Ah, tu dis quoi?
Verbal, corporel.
Corporel?
Parce que tu parles pas quand tu joues. Il n'y a pas besoin de...
Oui, il n'y a pas de terme à dire. T'as de l'argent à sortir pour jeûner? Au contraire. T'achètes pas à manger. Donc elle est corporelle, voilà. T'achètes de l'argent à manger pour l'iftar. Naam. Et puis souvent les gens ils invitent les autres. Je veux dire, c'est pas obligé de... Oui, j'ai pour toi de sortir de l'argent pour le CIEM. Ce qu'ils demandaient, c'est d'arrêter les choses interdites, qui sont la boisson, la nourriture, les rapports, et bien sûr bien des péchés, et autres, de l'apparition de l'aube, Fajr, jusqu'au coucher du soleil, Mahreb. Pas d'argent à donner, ni de paroles à prononcer, par rapport au CIEM. Et cette adoration, elle est en fait... Excusez-moi le terme, elle est intime. Car celui qui jeûne, ça ne se voit pas. Elle est entre toi et Allah Azzawajal. Un sa'im, ça ne se voit pas. Un ramadan, à la base, on jeûne. Si quelqu'un ne jeûne pas, qui ne mange pas devant toi, tu vas le savoir qu'il mange. Tu ne le sauras pas. Tu ne le verras pas. Donc pour toi, les sa'im. Des gens qui jeûnent, t'en as, peut-être qu'ils font le jeûne de Daoud tous les deux jours. Tu ne le vois pas, toi. T'en as qui font les trois jours par mois. Toi, tu ne le vois pas, toi. T'en as, ils font lundi et jeudi, tu le vois pas. Ou t'en as, ils font d'autres jours quand ils en ont envie. On le voit pas. C'est une adoration, elle est intime. Entre le serviteur et son seigneur. Ça ne se voit pas. Mais elle est corporelle. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a un hadith. Que les adorations, elles peuvent aller de 7 hasanat à 10 jusqu'à 700. Et plus encore. Allah, il peut décupler une hasanat. Tayyib. Et il a dit, il la somme. Le somme, il peut décupler encore plus, encore plus. Il a dit, pourquoi? Car il est entre moi et mon serviteur. Nul ne sait ce que mon serviteur y fait, à part moi. À part, bien sûr, s'il le dit, ou que ça se voit dans le sens, c'est pas une chose qui se montre, à la base. Après, c'est peu que, au Maghreb, au Mosdi, les gens te voient boire et rompre, ils vont déduire. Mais sans quoi, c'est une chose qui ne se voit pas, qui s'annonce pas. La salade, ça se voit. Vous voyez, le hedge, quand tu vas faire, ça se voit. La zakat, les gens, ils savent généralement les frères qui ont de l'argent ou pas. Tu vois. Mais le siyam, c'est une adoration que tu peux faire quand on a envie, à part dans les jours particuliers, comme le Eid ou autre. Et personne ne saura. Vous voyez, personne ne saura. Et le siyam, il a été légiféré... la deuxième année de la Hijra. Au début, il faisait que Ashura. Ashura, c'était wajib pour tout le monde. Ensuite, Ramadan est venu. Au début, Ramadan, c'était pas obligatoire. C'est celui qui veut jeûner, il jeûne. Et celui qui ne jeûne pas, il donne en compensation à des pauvres. Et ensuite, Ramadan est devenu obligatoire. Un pilier. Et Ashura est devenu mustahab. Et j'ai oublié de préciser, la zakat, tout à l'heure j'ai pas dit, la zakat également, il y a un khilaf de ulama, ils disent qu'elle a commencé à Mecca, mais sans savoir la quantité à donner. Et que le tafsir, les détails, il est venu à Medina. D'accord ? Et tout à l'heure j'ai parlé de la zakat des biens matériels, et aussi de la zakat dans tout ce qui est agriculture, dans le raisin, dans le blé, les dattes, je crois que c'est l'orge, et j'ai un trou. Je crois que c'est ces quatre-là. Le raisin. Là. Après, les ulama, ils ont fait par analogie, tout ce qui est graines, ils ont mis le riz, la semoule, mais en vrai, il n'y a pas de texte qui en parle. D'accord ? C'est les dattes, le raisin, le blé et l'orge. Ce sont ces quatre-là qui ont été nommés dans les textes. D'accord ? Et cela, et également, il y a dans le bétail. Dans le bétail, dans chameaux, ovins et bovins. Là, ce sont d'autres règles, pour pas... D'accord ? Mais ça, c'est aussi là-dedans, il y a une zaka. Et les règles, elles sont différentes. Faut pas attendre une année. T'as le nombre d'animaux, d'accord ? Ou plutôt, les graines, si jamais t'as atteint une certaine dose, quantité, de cette quantité-là, tu sors la zakat. Voilà, kada. Thumma al-hajj. Al-hajj, le baytila al-haram. Adi ibada. Le hajj, ça rend dans quelle adoration parmi les trois ?
Le hajj.
Ouais.
Corporel.
Corporel.
C'est une
bonne intention. Oui, mais principalement, elle est basée sur quoi ? Corporelle et
financière.
Parmi les choulots du Hajj, c'est que tu as les moyens de partir et de revenir. Et de ta famille, également à l'abri, c'est une famille. C'est un voyage à entreprendre. C'est une charge. Aujourd'hui, le Hajj, vous avez vu combien il coûte ? On ne va pas dire que ce n'est pas financier. D'ailleurs, ce qui freine beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça. Quand tu dis le Hajj, ils disent « Ah, oh, t'as vu combien c'est ?» Hey, c'est pour Allah, Zawajal, c'est un pilier. T'as l'argent n'est pas perdu. Même si l'agence du pèlerinage t'arnaque, auprès de l'argent, t'es gagnant. Faut pas regarder ça. « Ouais, c'est des voleurs, je fais pas le Hajj. » Ah, tu fais pas le Hajj. T'as les moyens, tu peux y aller, ça te met pas en galère, juste qu'ils prennent un peu plus que d'autres, et ben tu dois y aller. Obligatoirement, et je parle du Hajj, comme l'auteur va le dire, c'est une fois dans ta vie. Si tu l'as pas fait, je parle, bien sûr. Le Hajj, Hajjat al-Islam. Ce Hajj-là, il vient. D'accord ? Le Hajj, sa saison, elle vient. T'as les moyens de partir. Quand je dis les moyens, tu rentres dans les conditions pour y aller. D'accord ? Physique, t'es pas malade. L'argent, tu l'as. D'accord ? T'as juste à aller t'inscrire à une agence et ils te prennent. Et tu n'as jamais fait le Hajj, tu dois y aller. Même s'ils te prennent je sais pas combien et que t'as les moyens de payer. Et ne pas faire l'erreur que beaucoup de gens font, je ferai le Hajj quand je serai vieux. Et qui te dit que tu vas vieillir ? Qu'est-ce que t'en sais que tu vas vivre l'année prochaine ? Même demain, t'en sais rien du tout. L'adoration de base, les ordres dans le Coran et la Sunna, voyez, c'est sur le champ. Tu dois les faire au moment où le temps est venu. C'est comme la zakat. Quand l'année est passée, tu as eu le nisab, tu dis pas j'attends, non, tout de suite, le lendemain ou quoi, là, t'as l'argent, tu cherches, tu le donnes. Tu dis pas, ouais, j'attends de ramasser 10 000 euros, 20 000 euros, on t'a pas demandé ça. On t'a dit si la somme du nisab, elle a été atteinte. Elle a fait un an avec toi, tu donnes. Mais tant que tu cherches qui, pour toi, mérite, tu donnes. Tu dis pas, ouais, j'amasse encore, il n'y a pas assez, je vais donner que 2 euros, donne 2 euros. T'as fait ton wajib, demande Allah, Zawajil. Maintenant, t'es généreux, donne plus. Mais ton wajib, c'est ton 2,5% de tes biens. C'est ça qu'Allah t'a ordonné de faire. Le reste, c'est toi-même. Ben, le hajj, c'est pareil. Vous voyez ? Le hajj, c'est pareil. Parce que le hajj, comme le cite l'auteur, dans un hadith, yakul, فَمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلَمْ يَرْفَثْ وَلَمْ يَثُّقْ رَجَعَا كَيُّمْ وَرَدَتُهُ أُمُّهُ متفقون عليه. Que celui qui fait le hajj, et dans ce hajj, il ne fait pas de jidel, de polémique, de dispute, ni de rapport interdit, c'est-à-dire avec sa femme, parce que quand tu es muhrim en état de sacralisation, tu n'as pas le droit d'avoir de rapport avec ta femme, ni rien. Celui qui fait cela, c'est-à-dire un hajj mabrour, un hajj bien accompli, sans transgression, il revient comme le jour où sa mère l'a enfanté, ça veut dire aucun péché. Comme un bébé. Sauf le droit des gens. S'il y a le droit des gens, il doit les rendre. Par exemple, il est parti, je sais pas moi, il a fait du mal à des gens, ça, tant qu'il ne s'est pas délié du droit des gens, c'est pas pardonné. Mais le reste qui concerne entre lui et Allah Azzawajal, c'est pardonné. D'accord ? Tant les gens vont dire, ouais, je fais toute ma vie, je fais le fort, d'autres ma vie, je fais le péché, et puis à la fin, je vais faire le hajj, je serai pardonné avant de mourir. Je dis, ah, t'es sûr ? Rien que cette niya-là, déjà, elle est pas bonne, t'es même pas sûr qu'elle va être pardonnée. C'est comme si tu, en fait, tu voulais un peu tromper, quoi. Tu vois ? Tu veux jouer. Et tu sais pas combien de temps tu vas vivre. Et tu sais pas si ton hajj, tu vas bien le faire, en plus. T'en as combien, ils vont au hajj, ils se disputent, ils crient, ils connaissent pas les règles, ils font n'importe quoi. Tu vas aller voir si demain, Allah Azzawajal vous donne l'occasion d'aller à Mecca, de faire le hajj ou la umrah. D'accord ? Vous allez voir des ajaïb, des choses incroyables. Vous allez voir du Sheikh Akbar devant vos yeux, devant la Kaaba. Au Masjid Nabawi, vous allez voir du Sheikh Akbar devant vos yeux, devant la Nabi sallallahu alayhi wa des gens qui l'invoquent. Ce que vous voyez pas en France, vous allez voir là-bas. Parce que là-bas, tout le monde, toute la Oumma, elle est présente, de tous les pays. Donc c'est là que tu vois le niveau qu'on a, en fait. L'ignorance dans laquelle on est noyé. Des choses que tu n'as pas vues en France, de la part de muslimines, tu vas les voir devant la Kaaba. Allah al-Asaf. Ça te fait mal au cœur, mais voilà. Et Kazalik, donc le Hajj, on a dit c'est un pilier, tu dois le faire une fois dans ta vie. Minimum. Après le Hajj, c'est... Après le reste, c'est surrogatoire. Et plus tu feras de Hajj, mieux c'est pour toi, mais là, check. Kazalik, la Umrah. La Umrah, il y a un khilaf entre les ulama, mais le col qui apparaît, c'est que même la Umrah, une fois dans ta vie, tu l'as fait. De toute façon, quand tu fais le Hajj, tu fais la Umrah avec. Quand tu fais le Hajj, la Umrah va avec, donc elle est faite. Mais quelqu'un, par exemple, qui n'a pas le moyen de faire le Hajj, mais qui peut faire une Umrah, ben celle-là, on dit, va faire une Umrah. Déjà, tu auras fait ça. Alhamdulillah. Et dans le hadith, il a cité le jeûne. Il a cité plutôt Afouane le jeûne avant le Hajj avant le jeûne. Alors que le jeûne a été légiféré avant le Hajj. Ça, c'est une version du hadith. Dans une autre version, il a fait devancer le jeûne sur le Hajj. Car le Hajj a été rendu obligatoire, légiféré à la fin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un seul Hajj. Il est mort après. On appelle Hajj al-Wada', le Hajj de revoir. Et c'est là qu'il enseigne aux gens comment faire le Hajj. C'est le seul qui l'a fait. Donc le Hajj, comme Zakarna, c'est une adoration qui est corporelle et financière. Donc il dit, pour finir, Mima yustafad min al-hadith. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir comme point de ce hadith ? Yaqul bayyan ahammiyat hadil khams li kawn al-islam buniya 'alayha. L'importance de ces cinq piliers car l'islam se passe dessus. Thaniyan tashbi' al-umur al-ma'nawiyya bil-hissiyya li taqririha fil adhan. Qu'on peut comparer les choses, faire des comparaisons imagées des choses pour les ancrer dans l'esprit de la personne. Faire des paraboles avec des choses que les gens comprennent. D'ailleurs, je tiens à préciser une chose. La dernière fois, on parlait de... Je crois que c'était le premier ders. On avait comparé la voiture et le chameau. Et j'avais dit le verset « Afalayam zulu lil ibili kefakhulikat » Et en fait, j'avais dit qu'Allah Azzawajal parlait aux Arabes de l'époque parce qu'ils comprenaient. Donc on va dire en fait les règles du voyage, de monture, et autres sont les mêmes. Mais dans le verset, en fait, c'est pas seulement le fait de parler, de comparer avec les... ce qu'on comprend, c'est que le chameau, le dromadaire, en fait, en lui-même, est un animal qui est incroyable. On peut pas comparer la voiture à un dromadaire. D'ailleurs, la voiture, c'est une fabrication de l'homme. C'est l'homme qui l'a fabriqué. Le dromadaire, c'est un animal créé par Allah Azzawajal. Donc, méditer sur le dromadaire est une chose qui est demandée. La voiture, vas-y, c'est bon. C'est une voiture. Et l'homme sait de A à Z comment elle est faite, chaque boulon. Mais le dromadaire, il y a des secrets qu'on connaît peut-être même pas encore. Des choses qu'il fait qui nous impressionnent. Il dit, comment il arrive à faire ça, cet animal-là? Il marche dans le désert, il porte des charges, il boit pas. Tu vois? Alors que la voiture, c'est une chose qui a été faite par l'homme, il sait comment elle est. Le dromadaire, non. Donc, il y a une ziyada. Donc, dans ma comparaison, en fait, c'est comparaison de... de fait à fait en époque, mais pas de la créature d'Allah à ce que l'homme l'a fabriqué. Non, c'est pas comparable. On va pas comparer un oiseau à un avion. Abadan. On pourra parler de l'avion pour ses règles dans le voyage et tout, mais un avion, c'est une chose que l'homme a fabriquée, qui a des défaillances, qui a des défauts, ainsi de suite. Un oiseau, c'est un animal, il vole tout seul. Un oiseau, sauf si tu le tues, on voit pas un oiseau qui tombe du ciel quand il vole. T'as déjà entendu parler d'un oiseau qui tombe du ciel? Qui se crache? T'as déjà entendu, toi? Que ce soit un aigle, que ce soit un moineau, je connais pas. À part quelqu'un qui l'aurait tiré sur plein vol ou quoi. Les avions. Regarde ce qui se passe avec les avions. Bien que c'est le moyen de transport le plus sûr, il y a des accidents. Pourquoi? Parce que c'est la main de l'homme. Alors que la création d'Allah Azzawajal, elle est parfaite. Elle est parfaite. L'oiseau est plus fiable que l'avion. Tu vois. Pareil, le bateau avec les... vas-y, on va comparer, je sais pas moi, le sous-marin à un poisson. Tu vois. Sous-marin à un poisson, c'est incomparable. Même si t'as un sous-marin de la taille qu'il fasse, tout ce qu'il y a dedans comme technologie et tout. Tu vois le petit poisson rouge dans le bocal, là? Eh ben, il est plus impressionnant que le sous-marin. Mais seulement les gens font pas attention. Ce petit poisson, là, si on le tue, on dit remets-le en vie. Le sous-marin, on le casse, tu pourras le réparer. Le petit poisson, on le tue, vas-y, refais-le vivre. Tu pourras pas. Et le petit poisson, met dans l'eau, vas-y, attrape-le. Tu pourras pas l'attraper. Il faudra que tu prennes un filet ou quoi. Vas-y, attrape-le, vas-y. Je te mets au défi de l'attraper. Tu pourras pas. Ah ben le sous-marin, allez, un missile, quoi, ça y est, c'est fini. Le poisson, tu n'arriveras pas à l'attraper. À part avec des techniques, la canne à pêche, la paille, tout ce qui s'ensuit. Je suis là maintenant avec tes mains, là, attrape un poisson rouge, là, petit poisson rouge comme ça. Là. Tu pourras pas l'attraper. Tu vois. Et ça, c'est Allah Azzawajal qui l'a créé. Le sous-marin aussi. Je dis, l'homme, il a sa part dedans. Le poisson, on n'a aucune part dedans. L'oiseau, on n'a aucune part dedans. Le dromadaire, le chameau, on n'a aucune part dedans. Donc ça, c'est destiné à Allah Azzawajal pour nous faire méditer sur sa création. Même nous, notre corps. L'être humain, le corps humain, c'est une chose qui est impressionnante. Souvent, on le rappelle, les gens sont impressionnés par des choses, par des robots, par des ordinateurs, par les téléphones, et le corps humain. Le corps humain, regarde comment il fonctionne, le corps humain. Et dans le Coran, combien de Allah Azzawajal nous invite à méditer sur le corps humain? Refaites un homme, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Créer la vie, le souffle de vie, vous ne pourrez pas. C'est impossible. Regarde le corps humain qu'on se blesse, comment on se cicatrise tout seul. Le côté, le système immunitaire, tout ça. L'enfant, il sort, à la base, c'est une goutte de sperme. Regarde les gaillards que beaucoup de frères deviennent. Tu vois? C'était dans le ventre de ta mère, après tu fais le trip de ta mère quand tu le... Des fois ta mère regarde, oh, c'était dans mon ventre, comment c'est incroyable. Mais réfléchis, qui c'est qui m'a créé? C'est Allah Azzawajal. Qui a fait que je fais 2m10 aujourd'hui, que je fais 130 kilos. C'est Allah Azzawajal qui m'a créé comme ça. Alors qu'à la base, t'étais rien. Comme disait Warbir, t'existais même pas. Et là, t'es là maintenant, mashallah, t'es à... Et demain, tu vas vieillir, tu seras un vieux, tu vas te courber, tout faible. Et après, tu vas mourir. Et une fois que tu seras mort, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Donc ça, l'homme, il n'a pas sa part là-dedans. Aucune. Et tu vois les hommes impressionnés par leur fabrication. Tu vois. Et ils négligent ce que Allah Azzawajal a créé. Après, il dit, Thalithan, le bid'u bil aham fal aham. Comme dans le hadith de Jibril, on commence par le plus important. Quand tu enseignes aux gens, tu commences par le plus important. Donc là, quand quelqu'un entend l'islam, on commence par lui apprendre cela. Les piliers de l'islam. Rabi'an, ana sha'alatayn asas fi nafsihima. Wahuma asas li ghayrihima. Fala yuqbalu amal illa iza bunya alayhima. Que les deux attestations sont la base des autres piliers. Que sans ces deux attestations, les autres actes ne sont pas acceptés. Ta salat n'est pas acceptée, ton siyam n'est pas accepté et ton hajj n'est pas accepté. Donc faut commencer par ça. Khamisan taqdim as-salat ala ghayriha min al-a'mal li'annaha silat wa thiqat bayn al-'abd wa bayn rabbih. Ensuite, on fait devancer la salat sur tout le reste. Car la salat, c'est la seule sur laquelle il y a un khilaf, celui qui la délaisse, est-ce qu'il est kafir ou pas. Le hajj, le siyam, la zakat, ma yakfur. Il est pauvre que celui qui le délaisse, il n'a pas mécru. Sauf s'il rend cela halal. Dis pas, je ne suis pas obligé de le faire. Là, c'est autre chose. Mais celui qui, par exemple, il est avare, il ne paye pas la zakat, il ne mécroit pas. Celui qui est moins, qui ne fait pas le hajj, il ne mécroit pas. Celui qui ne jeûne pas, il ne mécroit pas. Mais la salat, là, c'est un khilaf. Donc la salat, elle est devancée. Et en plus, la première chose que Allah interrogera les gens Yom al-Qiyamah. Sur son droit à lui, c'est quoi? C'est la salat. Première chose, il sera interrogé. La salat. Allah, il va regarder la salat que tu as faite. Combien tu en as faite? Et celle qui était mal accomplie parmi les obligations, les obligatoires, il sera pris de tes surrogatoires pour compenser le manque. C'est pour cela qu'il faut toujours multiplier les surrogatoires pour multiplier tes probabilités de pouvoir être pardonné. C'est pas là pour rien. Il y a une faïda derrière. Non. Donc voilà ce qu'on a pris comme hadith aujourd'hui sur les cinq piliers de l'islam. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.